Lorsque Xiu Cao nous parle de la Chine, ça donne un mandarin, une mandarine.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Faut-il que je salue mon invité Xiu Cao en joignant mes mains en prière, comme ça? Pas forcément. Faut-il, pour la mettre à l'aise, que je l'invite à manger dehors, en terrasse? Eh ben, c'est pas sûr. Ou lui donner le choix entre une tasse de thé ou un verre de vin? Alors là, vous seriez bien étonné, cette jeune designer née à Pékin il y a 37 ans et installée aujourd'hui à Paris, a une passion pour la communication interculturelle. Et d'ailleurs, s'est diplômée en littérature et en graphisme, a pratiqué autant les dortoirs chinois que les colocations américaines ou les chambres de bonnes parisiennes. Déplacer les meubles d'une culture, c'est une image, hein. Elle l'a déjà fait, le fait et le fera encore. Après avoir largement partagé sur les réseaux sociaux sa BD Teeny Eyes Comics pour confronter sa culture chinoise au quotidien mondialisé, la voilà qui publie « Débrider le monde vu par mes yeux chinois » avec des vignettes pleines d'humour sur la culture française, l'art de la table, la grève, le « je t'aime » à la française et forcément quelques ombres chinoises au tableau, bien loin du drapeau de Tiananmen qui flotte en ce moment sur l'actualité. Xiu Cao, alors pour vous dire bonjour, konnichiwa. Si je joins les mains en prière, vous avez ri hein, quand j'ai dit konnichiwa. Si je joins les mains en prière devant vous comme ça, qu'est-ce que vous vous dites immédiatement?
Ça me dit que vous n'êtes pas chinois, forcément, oui. Parce qu'il n'y a pas de sens pour moi, les deux mains. Mais je vois souvent quand même les gens, quand je dis je suis chinoise, ils font le geste et puis ils ne comprennent pas en fait.
Et il vient d'où ce geste alors?
Bah en fait, ce que j'ai compris, c'est un mélange de Thaïlande en thaïlandais et aussi un peu de japonais. Donc avec la tête
qui opine.
Oui, mais je pense que pour eux, l'Asie, c'est ensemble, c'est une entité. Donc,
Et comment on dit alors physiquement? Est-ce qu'il y a un geste qui accompagne le bonjour chinois?
Bah en fait, c'est... Dans la sphère business, on fait le handshake, on serre la main. Et puis entre les familles et les amis, en fait, on ne fait rien en gros. On dit bonjour, peut-être c'est tout. Hein. C'est
pas... On ne fait surtout pas la bise.
Pas du tout, non. Oui, la première fois que je suis arrivée en France, la bise, ça me fait un effet énorme parce que c'est trop intime. Pour moi, dans ma propre culture.
C'est too much.
C'est trop intime, c'est trop intime.
En tout cas, vous allez nous débrider tout à l'heure avec votre livre. Mais on va d'abord feuilleter quelques pages de votre enfance à vous, Xiu Cao. Une enfance qui a été bercée notamment par ça.
Comme
Radio Mon Amour.
Ah, ça, c'est la radio qui fait bouger, hein, Xiu Cao. Qu'est-ce qui se passe là?
Bah, dans la radio, ça dit en fait juste 1, 2, 3, 4. En fait, c'est un type de calisthénique chinoise qu'on fait souvent pendant l'école primaire, lycée. En fait, c'est tous les matins, tous les étudiants, on va dans les cours et on fait ça ensemble, en suivant la musique.
Oui. Des exercices de gymnastique?
Oui, c'est une sorte d'exercice gymnastique qui est censé être bon pour la santé. Et c'est aussi un peu un symbole de ma vie collective en Chine.
Alors, il y a ce son-là qui a accompagné votre enfance, mais dans votre boîte à souvenirs, on aurait pu mettre la voix de votre mère qui apparemment chantait souvent à la maison.
Oui, en fait, c'est pas chanter souvent, c'est surtout quand elle fait les vaisselles. Elle chante, elle se met à chanter des chansons, elle adore. Et moi, quand j'étais petite, je trouve que c'est magnifique. Et je croyais que laver le vaisselle, c'est la meilleure chose dans la vie. Comment les gens peuvent être si heureux quand ils lavent les vaisselles, quoi. Mmh. Et oui, mais en vrai, c'est comme ça, elle a oublié sa routine tous les jours par chanter.
C'était une belle stratégie, ça.
Ben oui.
Alors, puisque vous êtes né en 87, forcément, vous êtes de la génération enfant unique.
Oui.
Est-ce que c'est spécial à vivre, ça, ou c'était juste la norme ?
Bah pour moi, c'était juste la norme. Franchement, en fait, c'est marrant, tout le monde m'ont posé les questions quand je suis à l'étranger. Qu'est-ce que vous vous sentez ? Est-ce que vous êtes toute seule ? Est-ce que c'est triste ? Vos parents vous doudounaient ? En fait, c'est...
Vous doudounaient, vous
non,
avez dit ?
En fait, c'est... Comment on dit ça ? C'est un peu...
Vous chouchoutez ? Vous dorlotez ?
Oui, c'est ça, ouais. Merci.
C'est bien un doudouné, hein ? Je vous le prends, je vous le vole.
Oui, et puis, en fait, c'était la norme pour moi. C'est juste... ma routine, c'est normal. Tout le monde est comme ça, dans ma classe. Ouais.
Alors, vous avez connu la Chine d'avant sa réelle ouverture sur le monde, mais en même temps, à la maison, chez vous, il y avait déjà un peu du monde occidental à la maison, grâce à votre père.
Oui, un petit peu. En fait, mon père, il a une vraie passion pour la musique occidentale, de Chopin, de Bach, de Tchaïkovski. En fait, je suis baignée dans cet environnement, dans cette ambiance. C'est quand même dingue pour une famille chinoise,
oui,
je trouve.
Oui, c'est dingue, vous l'avez dit. Père éditeur, qui a fait du théâtre ?
Mon père était, oui, il était éditeur. Et après, il a changé, il travaille. En fait, c'est pour organiser des spectacles musicaux dans les théâtres. Parce qu'il y a toujours un lien avec la musique occidentale, c'est sûr.
Donc aujourd'hui, quand vous entendez Glenn Gould jouer en Bach, vous avez l'impression tout de suite d'être à Pékin.
Oui, c'est étrange, non ?
Le président Mao est notre commandant. Nous sommes sous les ordres du grand commandant. Écoutons attentivement le président Mao. Et sans aucun doute, la révolution culturelle se développera sans problème et remportera de grandes victoires. Nous voulons écraser la vieille pensée, la vieille culture, les vieilles habitudes et les vieilles coutumes de toutes les classes exploitantes. Débarrassons-nous des nuisibles, écrasons tous les obstacles.
Quand les gardes rouges ont surgi, il y a eu une campagne de perquisition et de saisie. Mes frères aînés y ont pris part et moi aussi. Parfois, on allait à la police pour dire « Cette famille est une famille de propriétaires terriens, ce sont de mauvaises gens. Nous allons perquisitionner et confisquer. » Parfois, on pouvait dénicher des livres interdits, par exemple, une édition rare du Lotus d'Or. Alors on se disait « Regarde, ils ont des livres obscènes. »
On En écoutant pour un sol majeur ce documentaire de Pierre-André Boutan, Mao, une histoire chinoise, la révolution culturelle n'est pas un dîner de gala. Je crois que c'était une phrase de Mao d'ailleurs. Je me pose cette question, c'est Wu Zhao, vous qui avez grandi en écoutant du Bach et du Tchaïkovski, ce qui n'était pas possible à l'époque de Mao. Comment vos parents, vos grands-parents l'ont vécu cette révolution culturelle ?
En fait, le côté de mon père, mon grand-père de mon côté de mon père, c'était paysan. Donc eux, en fait, ils sont plutôt tranquilles pendant la révolution culturelle. Mais par contre, du côté de ma mère, ils vivent dans un milieu intellectuel. Donc ils ont très très peur pendant la révolution culturelle. Mes grands-parents ont brûlé toutes les photos de quand ils étaient à l'école et après détruire tous les produits qui est un peu des bons produits quoi. Pour montrer qu'ils ne sont pas des déviantes, ils sont bien alignés avec
l'idéologie.
L'idéologie, oui, mm-hmm. C'est ça. Et pour mes parents, c'est plutôt, ils ont envoyé tous les deux à la campagne, à Dongbei, c'est à nord-est de la Chine. Et ils font que du travail manuel, bah, ils sont privés d'éducation.
Mais vos parents, ils sont un peu exceptionnels parce qu'ils ont quand même réussi, après la révolution culturelle, à assumer cette culture occidentale qui était la vôtre, alors qu'ils étaient complètement en décalage idéologique, on va dire, avec la ligne du parti.
Oui, après, justement, après tout ça, c'est fini, après le mouvement est fini, ils sont revenus à Pékin et mon père, il travaillait à l'époque dans l'usine. Et pendant la nuit, il relit tous les textes. Pour qu'ils puissent aller prendre l'examen pour rentrer à l'université. Mais c'était très très dur, parce qu'il va faire la compétition avec tous les autres gens qui n'ont pas raté leur éducation, avec tous les jeunes en fait.
Donc qui prônent une ouverture comme ça sur le monde, tout en restant quand même très attachés à la culture chinoise. C'est oui. Les deux en même temps, vous diriez ?
Oui, en fait mon père il a un diplôme en chinois. Donc il adore les littératures chinoises, il y a un côté, oui, vraiment très très chinois aussi, mais il est curieux, je pense, aussi, pour le côté occidental. Donc il a écouté même des radios pendant les révolutions culturelles, qui est interdit.
Vous pouvez le dire, il y a prescription là, aujourd'hui.
Oui, du coup, en fait, il a écouté la musique occidentale pendant la révolution culturelle,
oui.
Avec la radio secret. Donc c'est intéressant, vraiment, il y a ces deux côtés qui est aussi fort.
C'est parce qu'aussi c'était un fruit interdit, cette musique occidentale, qu'elle était aussi bonne à ses oreilles. Enfin, ça a peut-être joué. Des parents qui vous ont encouragé, c'est Wu Zhao, à voir du pays, donc, à vous envoler vers d'autres horizons.
Oui, ils m'ont beaucoup soutenue, ils m'ont dit...
Ce qui n'est pas évident, vous êtes un enfant unique. Non mais c'est vrai.
Oui, je pense que justement, parce qu'ils ont raté leur éducation, ils ont tellement d'espérance pour les enfants qu'ils peuvent voir le monde.
Et... comme être ou ne pas être.
Tiens, comment on traduit ça en mandarin, être ou ne pas être?
Je réfléchis, être ou pas être. Tsunzai, haishi bu tsunzai, shi haishi bu shi. Ça, c'est en chinois.
C'est vous qui voyez.
Oui. Pour moi, c'est ça.
C'est ça?
Oui.
Comment est-ce qu'on dit « je suis heureux » en chinois? Est-ce qu'on dit le verbe « être heureux » ? C'est possible ?
Non, en fait, on ne dit pas, c'est vrai. On dit « 我高兴» ou « 我很幸福».
Mais en fait, ce qu'on traduira pas.
Ça veut dire « je heureuse ». C'est vrai qu'il n'y a pas le verbe.
Vous le découvrez, là.
Oui.
Bienvenue sur la Terre. Pour dire que le verbe être n'existe en tout cas pas, parce qu'il existe, j'imagine, ce verbe être
oui.
En mandarin, mais il n'existe pas de la même manière qu'en français. Est-ce que vous savez si ça change quelque chose dans votre manière d'être au monde ?
Je pense que le français, pour moi, c'est toujours plus structuré. Je le sens, je sens une structure, une logique qui est derrière, qui est très fort. Du coup, je fais encore plein d'erreurs quand je parle ou quand j'écris. Parce que tout est très logique, très structuré, très fixe, je trouve.
Vous êtes très structuré en français. Hein.
Et mais en chinois, en fait, moi, je trouve que c'est plus... Il y a un côté d'ambiguïté. Et c'est pas toujours structuré. C'est un peu la poésie, je trouve.
Vous avez une image ?
L'image de la langue chinoise, c'est plus flou. C'est comme il y a un filtre flou.
Opaque.
Oui. La langue française, moi je trouve c'est plus précis. On voit bien l'image, c'est très clair. Oui, c'est ça.
Être poétique ou ne pas l'être, bah justement, vous avez choisi de l'être en chinois, on comprend bien maintenant pourquoi, c'est Hou Cao, avec un poème qui parle de lune argentée et que l'on doit donc à Sushi, vous le connaissez par cœur, il vous accompagne depuis la nuit des temps, si j'ose dire, c'est un poète calligraphe du XIe siècle.
明月几时有?
Depuis quand existe la lune argentée?
把酒问青天.
Une coupe à la main, je demande au ciel bleu.
不知天上宫阙，今夕是何年?
Quel jour de l'année ça serait aujourd'hui dans les palais des cieux?
我欲乘风归去.
Je voudrais y retourner sur l'aile du vent.
高处不胜寒, 起舞弄清影,
mais je crains de ne pouvoir endurer le froid mordant.
何似在人间,
du palais lunaire.
转朱阁, 低起户,
je me lève.
照无眠,
et je danse avec mon ombre claire.
不应有恨, 何事长向, 别时远,
serait-il pareil au ciel que sur la terre?
人有悲欢离合, 月有阴晴圆缺,
la lune tourne autour de la maison, aux fenêtres ornées de boiseries,
此事古难全,
et y jette un coup d'œil sur l'insomnie.
但愿人长久,
en vouloir aux hommes serait sans raison.
千里,
pourquoi, quand on se sépare, est-elle toujours ronde?
Magnifique hein, ce poème pour en sol majeur sur RFI qui nous arrive du XIe siècle chinois, voilà, par Montgolfière. Hein. Il vous apprend quoi ce poème qui peut être imprégné de taoïsme, de bouddhisme? C'est vous la professionnelle, c'est vous qui allez nous dire. Mais il vous apprend quoi ce poème sur votre 21e siècle à vous, c'est Hou Cao?
Moi, j'ai choisi cette poésie parce que il m'a beaucoup parlé. Surtout le thème de se réunir et se quitter, et la joie et la peine. En fait, je trouve que c'est un thème qui est récurrent dans ma vie, surtout depuis les dernières 10 années. Je suis partie aux États-Unis et après en Angleterre et maintenant en France. En fait, il y a toujours ce thème de partir, arriver, quitter un lieu et recommencer dans un autre. Il y a la beauté dans cette comment on dit, le changement de temps et comment les deux côtés, les yin et yang qui se complètent et qui tournent. Donc c'est un peu le côté intime en fait. Pour moi, la poésie qui m'a beaucoup parlé.
Donc vous êtes comme ça dans un cycle yin,
oui,
et yang,
oui,
en quittant.
Chaque fois, j'arrive quelque part, j'ai l'impression que je vais reconstruire une vie dans une autre culture, apprendre une autre langue. Et après, je quitte cette vie que j'ai construite et je recommence.
Mais vous ne quittez pas vraiment.
Non.
À chaque fois, vous emportez quelque chose dans votre hôte de Mère Noël, si
oui,
j'ose dire.
Vous avez tout à fait raison.
Trois langues, donc peut-être trois logiciels. Comment vous naviguez? Comment vous switchez d'une langue à l'autre? Vous dites parfois, je change aussi la manière de penser et parfois ma personnalité avec ces trois langues.
Oui, bah déjà la chinoise, c'est ma langue natale. Donc je me sens à l'aise quand je parle, j'ai la confiance, je me sens à la maison. Par contre, quand je parle français, je suis un peu encore maladroite, comme vous avez vu, j'ai fait des fautes. Et puis, mais ça reste quelque chose de curieux, parce que justement, je ne maîtrise pas encore. Donc, je suis en mode explorer, je suis en train de découvrir. Et chaque jour, je prends un mot ou deux. Et ça m'excite aussi.
Vous jouez?
Oui, c'est un petit jeu, en fait. Et la langue anglaise, c'est marrant parce que j'écris souvent en anglais, pas en chinois, parce que j'ai quand même passé 5 ans dans les pays anglophones.
Pour vos études de graphisme ?
Oui, et littérature surtout. Mm-hmm. Donc j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup réfléchi, et s'exprimer, et absorber. Donc en fait, c'est, pendant ces périodes-là, j'ai vraiment développé mon cerveau, quoi.
C'est sympa pour le chinois.
Et du coup, les Beatles dans votre smartphone. Pourquoi Hey Jude en particulier?
Je pense que c'est juste un esprit optimistique, je trouve. Même il y a des problèmes, c'est pas grave, on y arrive. Oui, il faut avoir l'esprit léger.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid.
Ça donne envie de chansons tristes forever, ça. C'est un petit Beatles sur les platines du temps avec notre invité Seoul Sao, 13 en sol majeur sur RFI, une graphiste littéraire chinoise venue se débrider à Paris.
Mangiare, c'est avec les baguettes ou avec la fourchette?
Mangiare.
Oui.
Avec les baguettes ou avec la fourchette?
Bah, en fait, je suis encore un peu maladroite avec la fourchette et les couteaux. Ouais. Parce que j'ai tellement... la baguette, c'est pour tout. Je ne sais pas si c'est la philosophie chinoise aussi qui... Ah, je ne sais pas comment décrire ça, mais parce qu'ici en France, on a tellement de couverts qu'on utilise sur une table.
Il y en a pour le plat principal, pour la salade, pour l'escargot,
oui,
pour le poisson, pour le beurre, pour le fromage, pour le dessert.
Exactement. Et pendant ces moments-là, je regarde les autres parce que je n'étais pas sûre lesquels il faut que je prenne. Parce qu'en Chine, n'importe quel plat tu prends, tu peux quasiment manger tout avec les baguettes. Parce que c'est déjà tout coupé en petits morceaux.
Et c'est intéressant, vous disiez, il y a une philosophie derrière ces baguettes. Est-ce que vous arriveriez à nous dire quelle est cette philosophie?
Je vais essayer. Je pense que c'est l'idée de diversité et l'unité. Je ne sais pas si j'ai bien...
C'est-à-dire qu'on a, dans un bol, on a mille et un ingrédients, mais c'est la main, c'est le prolongement de la main, finalement, la baguette.
En fait, c'est un outil, mais on peut l'utiliser dans les contextes différents.
Alors, à la lecture de cette bande dessinée, débridée, la première réflexion que vous nous donnez à entendre, finalement, c'est que c'est... En Chine, vous n'étiez pas vraiment consciente d'être chinoise.
Non.
Vous découvrez derrière une fourchette que vous êtes bien chinoise.
Oui, tout à fait.
Débrider le monde vu par mes yeux chinois, donc c'est découpé en réflexions assez différentes, sur des thèmes très différents, la cuisine. La cuisine prend beaucoup de place, évidemment.
C'est vrai.
L'amour, l'espace, le temps, la mort, les expressions, on va en regarder quelques-unes. Et sur la page de droite, il y a toujours des vignettes, façon un peu BD, avec votre héroïne à vous. Comment vous l'avez dessinée, cette héroïne qui n'a pas de nom, hein, a priori ?
Non, elle n'a pas de nom. Elle est née dans mon carrier. J'ai dessiné, avant que j'ai commencé le premier épisode, j'ai dessiné plein de personnages. Et je l'ai changé les cheveux, je change les vêtements. Et après, cette fille avec des tout petits yeux qui apparaît, qui me plaît, avec les cheveux, comme vous voyez là, ici.
Oui, c'est un peu vous, hein, finalement. C'est un peu un autoportrait quand même. Mais alors, elle n'a pas vraiment les yeux bridés. Elle a la coupe au bol, les cheveux noirs.
Oui.
Elle a deux petits points à la place des yeux.
Oui, c'est pas bridé, mais c'est comme les Chinoises ont des très petits yeux. Même, en fait, les bébés que je vois en France, les yeux sont plus grands que le mien. Et puis, c'est aussi, il y a un rapport avec le regard, je trouve. Pourquoi j'ai choisi le focus sur les yeux.
Vous portez votre regard sur la société et la culture française.
Exactement.
Comment vous allez à la rencontre de cette culture française et comment la culture française vous regarde également ?
Oui, c'est dans les deux sens. Il y a des choses qui, en France, qui me choquent.
Par exemple ?
La bise.
Quand la bise fut venue, oui.
J'étais tout rouge, je ne sais pas comment réagir, parce que c'était trop près, je me sens trop intime, avec une personne que je ne connais pas.
Il y a aussi le verre de vin qui vous fait de l'effet.
Ah bah oui. Oui.
Qu'est-ce qu'on appelle le syndrome du rougissement asiatique?
Et c'est comme je bois, par exemple, en verre, en fait, je deviens rouge.
Et ça ne touche que les Asiatiques, ce phénomène-là.
Oui, exactement.
Vous avez découvert ça?
Oui, j'ai cherché justement sur Internet. C'est que pour les Asiatiques, je ne sais pas il y a combien de pourcentage, j'ai oublié. Mais c'est vrai que si j'ai vu une autre personne qui est rouge, ça veut dire qu'elle est Asiatique aussi.
Donc ce qui vous choque, c'est la bise. Qu'est-ce qui vous choque encore en France?
Au début, la manière de dire non, en fait. J'ai dessiné une épisode sur ça dans mon livre.
Oui, sur la manière de dire son désaccord.
Oui, des désaccords.
Très différent selon qu'on est en France, aux États-Unis ou en Chine.
Oui, mais c'est tout à fait perso. C'est moi, j'ai observé dans ma vie que quand je suis arrivée en France, j'avais fait une formation et puis avec les gens, quand on discute, souvent ils se mettent désaccord, ils disent non, non, non. En fait, c'est très... Pour moi, c'est un peu violent même. Parce que j'étais habituée d'être dans un milieu harmonie dans tous les contextes.
Comment on dit qu'on n'est pas d'accord en Chine?
C'est souvent par le silence ou parfois les doutes.
Les doutes?
Oui, en fait, le doute, on ne dit pas direct non, mais on dit l'autre personne, il va comprendre.
Alors ce qui est intéressant, c'est évidemment la langue. La langue, elle dit beaucoup d'une mentalité. Et vous avez regardé certaines expressions chinoises qui sont d'ailleurs très liées à la nourriture.
Hein. Oui.
On y revient toujours. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites « manger du vinaigre » ?
Ça veut dire « on est jaloux ». Moi, je suis jalouse. Je dis « wǒ chì cù », j'ai mangé du vinaigre. Mais c'est vrai que vous ne trouvez pas, il y a un côté... Acide,
oui, c'est vrai. Mais j'aurais pas associé ça au sentiment de la jalousie immédiatement.
Ok.
Et que veut dire manger des épices parfumées?
Ah, ça veut dire que vous êtes populaire. Si on dit au boulot, si ni chien, ça veut dire que t'es populaire, t'es aimé par les patrons, par les collègues.
Et comment on dit perdre son travail en Chine?
On dit on perd le bol de riz. Ou le bol, oui.
J'ai perdu mon bol de riz, ça veut dire j'ai perdu mon boulot.
Oui.
Vous êtes en manque quand vous êtes dans la langue française pour cette partie comme ça, très très poétique, très très imagée, ou c'est toujours ludique le fait d'apprendre une langue quelle qu'elle soit ?
Moi je suis assez curieuse, donc apprendre la française ça me plaît aussi, parce que j'ai l'impression que je suis en train de découvrir quelque chose. Mais c'est vrai que ça m'a manqué aussi la langue chinoise, comme j'utilise plus, quasiment plus dans le quotidien.
Alors la question des minorités visibles en tant que, je ne sais pas si on peut dire française chinoise, mais en tout cas vous l'avez à l'œil, avec cette question, où sont les héros asiatiques au cinéma ? Et là on parle du cinéma occidental. Réponse avec vous, Seo Tsao.
Je pense qu'on est en train de créer les héros asiatiques, déjà avec les Crazy Rich Asians, on a vu un bon commencement.
Mais ça, c'est une exception qui confirme la règle, hein, quand même, justement. Puisqu'en 2018, ce film Crazy Rich Asians a été un véritable phénomène. Première production hollywoodienne, avec un casting exclusivement asiatique. C'est une comédie romantique, j'ai regardé un peu, avec un cocktail assez attendu, vous en serez d'accord. Une famille d'entrepreneurs richissimes de Singapour, un héritier... gendre idéal, vivant aux États-Unis et qui n'a pas révélé à sa petite chérie, qui est une américaine chinoise qui connaît rien de la terre de ses ancêtres, qui ne lui a pas révélé son exact pédigré.
Celle-là, maman, elle est mignonne. Qu'est-ce que t'en dis ?
Non. Tu ne peux pas porter ça pour rencontrer sa grand-mère. Le bleu et le blanc en Chine, c'est pour les enterrements, alors que le rouge, c'est le symbole de la chance et de la fertilité.
Génial, ça tombe bien, je voulais me faire un look petite vénarde qui a envie de pondre.
Hé, c'est toi qui m'as demandé de t'aider à choisir une robe pour rencontrer la famille de Nick.
C'est juste parce que je sais rien sur eux ou presque. Dès que je veux en parler un peu, Nick se défile.
Peut-être qu'il a honte de sa famille. Peut-être que ses parents sont pauvres et qu'il doit leur envoyer de l'argent. C'est ce que fait tout bon enfant chinois.
Oh, tu vas voir, je suis sûre que ça va être formidable. T'as toujours voulu aller en Asie. Et puis qui sait, si tout se passe bien à Singapour, tu vas peut-être rapporter un joli souvenir.
Non. Maman, arrête, s'il te plaît. Avec Nick, on n'en a même pas encore parlé, alors. Oh, mais c'est impossible que ses parents ne m'aiment pas, hein. C'était quoi cette tête? Je t'ai vue, tu sais.
Non, rien. Mais je me dis que le fait que Nick amène une fille jusque là-bas pour la présenter, c'est peut-être important pour sa famille. Ils ne sont pas comme nous en Asie.
Et en quoi ils sont différents? Ils sont chinois, je suis chinoise. Et même tellement chinoise que je suis prof d'économie et que j'ai une intolérance au lactose.
Oui, mais tu as grandi ici, en Amérique.
Tu as grandi ici, en Amérique. Tu as grandi ici, en Amérique. Tu es ici. Et ici.
Tu es différente d'eux. Mais si tu arrives avec une robe rouge, la couleur porte-bonheur, tu feras bonne impression.
Je vous avais prévenu, hein, grosse comédie. Pour un sol majeur, donc un peu de pop-corn avec cet extrait de Crazy Rich Asians, une diffusion mondiale qui a rapporté quelque chose comme 230 millions de dollars. Et ça, c'est un argument, j'imagine, pour regarder les acteurs asiatiques autrement. Quel effet il a eu sur vous, ce film, Seo Tsao ?
Bah, c'est le premier film, je pense que c'est vraiment... Il y a une histoire qui est bien aussi. C'est pas juste les castings sont tous Asian, mais aussi
c'est quand même le premier argument, c'est de voir qu'à l'écran vous pouvez enfin, je ne sais pas, vous identifier.
Oui, mais ce qui est important, c'est qu'il y a une histoire qui a du sens.
L'histoire, c'est quoi ?
C'est l'histoire de cette fille. Bah, vous voyez, mm-hmm. Vous avez vu.
Oui, mais je veux savoir quel film vous avez vu, si on a bien vu le même.
Bah, c'est cette fille américaine d'origine asiatique. Et il y a sa mère qui est chinoise. Et puis, elle a rencontré cet homme très riche qui vient d'une famille très, très riche à Singapour. Et lui, il a amené pour voir sa mère à Singapour. Donc, il y a toutes ces histoires entre cette fille et la mère.
Les origines, les classes sociales,
oui,
etc.
Oui, donc il y a tellement de conflits dedans.
Mais vous savez, j'ai regardé, du côté de Singapour, l'accueil a été beaucoup plus mitigé. Un politologue de là-bas, un certain Yan Chong, a dit « Ce film ne démonte pas les préjugés sur les minorités, il les exacerbe. Les Asiatiques des pays occidentaux sont tellement contents de se voir enfin à l'image qu'ils ne prêtent pas attention au contexte dans lequel ça se passe. Le film, en fait, représente le pire de Singapour, où les minorités... indienne par exemple, ou les pauvres, ou les marginalisés, n'existent pas. C'est pas inintéressant ça comme point de vue.
Oui, moi je suis d'accord que ça représente pas tout le monde, bien sûr. On peut pas inclure toute la diversité dans un film. c'est déjà bien si on montre une perspective cette fois, et la prochaine fois, on peut faire un autre film sur cette genre minorité.
En tout cas, après ce film, on est quand même d'accord que tous les Chinois ne sont pas forcément des crazy rich Asians.
Bien sûr.
Tiens, d'ailleurs, combien tu gagnes, toi? Ça, c'est la question.
Je vous dis pas. Moi,
c'est la question gênante en France, hein.
Oui.
Ce qui est pas le cas en Chine.
Non, pas forcément. Je dis souvent. En fait, moi, entre ma famille, on est assez transparent. Souvent, pendant le repas familial, ils me posaient cette question. C'est comme tu dis, qu'est-ce que t'as mangé? En fait, c'est assez normal. Mais entre les amis et les collègues, ça me gêne un peu quand même. Moi, je trouve c'est quelque chose de privé.
Vous êtes en train de vous occidentaliser. C'est où de ça où?
La lune. La mythologie chinoise raconte qu'un chien vivait au paradis avec la lune et la mangeait petit à petit jusqu'à ce que se produise une éclipse. Alors, les habitants de la Terre frappèrent très fort sur leur tambour et leur gong pour chasser le chien et faire revenir la lune.
Cet extrait de Débrider le monde vu par mes yeux avec vous, Sun Cao, pour vous poser cette question, est-ce que vous pensez que c'est fini les mythes comme celui de la lune?
Moi, je trouve que c'est en train de réduire.
Réduire?
Oui, c'est sûr. Parce qu'on est tellement dans le monde science. Maintenant, avec le big data, les données, en fait, tout est précis. Tout peut être vu par les yeux de nous. Et du coup, il n'y a rien de secret. Il n'y a rien, rien de mystère, je trouve. Il n'y a rien de... Ouais.
Ouais, et vous semblez le regretter. Parce que vous ressemblez un peu à une Chinoise mondialisée. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous passez un peu sans transition du culte des ancêtres, chaque 5 avril, à l'application WeChat. Vous êtes les deux.
Oui, je lis quand même pas mal de vieux textes chinoises, des pensées chinoises. Mais en même temps, je vis dans un monde contemporain avec le WeChat.
Vous nous rappelez ce que c'est, le WeChat?
Au début, c'est juste un outil pour on s'envoie les messages. Mais petit à petit, ça se développe. Et maintenant, on peut payer avec le WeChat. Surtout, on scanne un QR code. Et on peut payer au resto. On scanne juste la table et on peut commander.
En Chine, on fait comme ça aujourd'hui.
Oui, la dernière fois, je suis rentrée. Quand je sors du liquide, les gens me demandent, est-ce que vous avez WeChat? Parce que j'ai pas de monnaie. Donc, c'est vraiment la mode de vie, quoi.
Donc vous êtes connecté d'un côté, mais qu'est-ce qui vous reste, vous diriez, de ces valeurs confucéennes qui ont fait toute l'histoire de la civilisation chinoise?
Pardon, est-ce que vous pouvez répéter cette question?
Des valeurs confucéennes, qu'est-ce qui vous reste?
La relation humaine, parce que Confucius, c'est quand même ce qu'il a dit, son pensée, c'est très humaine, je trouve. Il y a la connexion entre les gens, les parents, les enfants... Ouais.
Tout en vivant une sorte de morphing, puisque en vivant en Occident, vous avez peut-être appris à dire, et même la Chine, elle est en train d'apprendre à dire « moi-je ».
Exactement.
Vous êtes en train d'apprendre à dire « je t'aime ».
Oui.
Et tout ça, « moi-je », « je t'aime », c'était pas trop la tasse de thé de Confucius.
Non. Au début, je pense que j'ai envie de partir de les pensées de Confucius, par exemple. J'ai envie d'être moi-même, individu, toute seule, et je me sens libre, forte. Mais maintenant, en fait, je relis Confucius, et je trouve qu'il y a des valeurs que je garde quand même, je trouve c'est très précieux, comme les relations humaines. En fait, on a besoin de l'autre. On n'est pas vraiment indépendante. On est toujours dans une relation.
Il y a une expression qui est très jolie en chinois, que vous allez peut-être nous dire. C'est une attitude, hein, presque, que j'aurais presque envie de vous voler, qui dit « la joie engendre le chagrin ».
Ouais.
Alors, comment on dit ça en chinois?
On dit « yin huo de fu ». Ça veut dire « à cause de quelque chose qui est censé être mal ou mauvais, vient quelque chose qui est heureuse, qui est le contraire, en gros ».
Quand vous avez raté votre concours d'entrée à l'université,
oui,
par exemple.
Exactement.
Ça, c'était pas une bonne nouvelle.
Oh non. Et du coup, en fait, cette mauvaise nouvelle m'a poussée à chercher une autre solution. Et du coup, il y a cette opportunité de partir à l'étranger pour mon étude. Et ça, c'est une bonne chose.
Donc un mal pour un bien, on dirait en français.
Exactement. Si j'ai pas raté mon examen, j'aurais pas pu faire l'étude à l'étranger. Mais justement, faire les études en étranger m'a amené du mal parce que j'étais loin de ma famille. J'ai eu mal au début de m'adapter à une nouvelle culture. Et donc, cette bien amène des mal aussi. Mais après, quand je finis mes études, je retourne en Chine. Et ces mal deviennent des biens parce que j'ai un regard tout nouveau sur ma propre culture. J'ai développé une relation encore plus connectée avec ma famille. Je l'aime encore plus. Donc, en fait, c'est jamais arrêté cette, comment on dit, le changement yin et yang avec le temps.
Donc, ce livre, en fait, est comme un vrai retour aux sources pour vous. Et vous citez d'ailleurs Henri Miller qui disait « Une destination n'est jamais un lieu, mais une nouvelle façon de voir les choses ». Il disait des trucs bien, Henri Miller, quand même. Donc, plutôt que de vous demander d'où êtes-vous, dorénavant, il va falloir vous demander qui êtes-vous.
Oui.
Et on embrasse Confucius. C'est l'heure du petit drapeau. Lorsque le drapeau britannique laisse la place au drapeau chinois, c'est qu'on est sauvé par le gong de Hong Kong.
Britain is part of Hong Kong's history, and Hong Kong is part of Britain's history. We are also part of each other's future. We are confident that the ties between us will not only endure, but will continue to develop.
Now, 儿时王子，布莱尔首相，尊敬的各位嘉宾，女士们、先生们，中华人民共和国国旗和中华人民共和国香港特别行政区区旗。五个中国新华字。
Avec tout à coup une petite piqûre de rappel. Oui, je vous ai fait sursauter, hein, avec cette rétrocession de Hong Kong à la,
bah oui.
À la Chine. C'est vrai qu'on aurait pu évoquer aussi la rétrocession de Macao en 99 par le Portugal. Comment est-ce que vous percevez, vous, cette page politique, Samu Tsao?
Bah, j'avais, je ne sais plus quel âge, 10 ans, je dirais, oui. Et à l'époque, pour un enfant, j'étais pas du tout consciente de cette sphère politique. Mais ce que j'ai compris à l'époque, c'est une chose très bien qui se passe pour la Chine, bien sûr, en tant qu'enfant.
Mais pour les Hongkongais?
Pour les Hongkongais, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Mais
vous êtes au-delà du politique. Vous pouvez avoir une amie à Hong Kong,
ouais,
tout en étant chinoise.
Ouais.
On est toujours plus fort entre humains que les politiques.
Et on est conscient de ça, je pense, entre amis. On touche pas ce bouton politique. Souvent, on parle ce qu'on partage en commun. Et je trouve c'est plutôt bien pour l'amitié que parler politique qui nous sépare, quoi.
Et sinon, est-ce que vous aimez ça, vous, la graphiste des temps modernes? Est-ce que vous aimez ça, les ombres chinoises?
Les ombres chinoises.
Vous savez, ce théâtre d'ombre là qui projette des silhouettes.
Moi, j'adore. Oui, j'adore.
C'est drôle que ça s'appelle les ombres chinoises.
Oui, c'est vrai. Il y a le portrait chinois aussi qui est bizarre. Je ne comprends pas pourquoi.
Si vous étiez un animal.
Ça change, hein, les questions.
Ah bah oui, ça change tout.
Cheval.
Non, parce que je vous posais cette question sur les ombres chinoises, parce que question pinceau, vous dites avoir un faible pour un certain Vincent Van Gogh.
Oui.
Pourquoi?
En fait, c'est un artiste qui m'a beaucoup touchée quand j'étais jeune, et j'ai même écrit une lettre au musée de Van Gogh, et en disant quel amour j'ai pour cet artiste. Et puis en fait, c'est le passion pour les arts. et comment y poursuivre sa passion avec tous ces obstacles.
Mm-hmm. Donc artistiquement, on pourrait dire que si on reprend le yin et le yang, vous êtes Van Gogh pour le yin et peut-être Chuang Tzu pour le yang.
Je dirais le contraire. Oui, le Van Gogh pour le yang et le Chuang Tzu pour le yin.
Pourquoi ?
Parce que le yang pour moi c'est quelque chose qui est très présent, qui on voit. C'est une force en fait. Et le Zhuangzi, en fait, c'est le yin, c'est le vide, en fait. Et le Zhuangzi, justement...
Donc c'est un grand poète.
C'est un philosophe ou un homme pensé chinoise.
Du 5e, 6e siècle.
4e, je dirais. Il m'a montré un monde qui est beaucoup plus grand que le mien. Je suis consciente que dans cet univers, il y a telle diversité de l'existence et chaque existence a une perspective à eux. Et a une place dans cet univers.
À lire aux éditions Équateur, Débrider le monde vu par mes yeux chinois. Merci. C'est Wu Cao. Comment on dit merci en mandarin ?
Xiexie.
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 Alors, je sais bien que vous aimez Edith Piaf.
Moi, j'adore.
On est nombreux dans ce cas-là. Mais je crois qu'on va terminer avec une petite tonalité country, puisque vous avez programmé en sol majeur un certain John Denver.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place.
Sol majeur avec Facebook, Twitter et en podcast sur notre application Pure Radio. J'espère que vous l'avez, cette application, merci. Et bien sûr, derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10 temps universel, ça nous fait 16h à Paris. Caroline Filliette, Laura Pinto et Yasmine Chouaki. On vous retrouve demain avec Farid DMS Débat. À demain.